On va faire une entrevue avec Étienne Simard qui aurait participé à l'autogestion des cafés-bars de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, pour commencer, je te demanderai, dans le fond, d'expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce qui s'est passé exactement en septembre dans votre coin.
OK, bien, en gros, ça faisait un an que c'était une firme privée qui gérait les cafés-bars et cafétérias à l'Université du Québec en Outaouais. Autrefois, c'était l'institution universitaire qui gérait le café-bar et la coop alimentaire, disons, qui gérait la cafétéria. Puis, un moment donné, par un tour de passe-passe institutionnel, ça avait été octroyé à une firme privée qui est la firme La Liberté. Après un an où elle a eu le contrat, elle a décidé de fermer les cafés-bars dès la rentrée en septembre 2008 parce que c'était pas assez rentable. Donc, à partir de ce moment-là, les étudiants et étudiantes ont réussi à rentrer dans le café-bar et ont commencé à l'occuper. Ça a duré... ils ont décidé de l'occuper puis de lancer une campagne de boycott contre La Liberté. Puis c'était aussi intégré dans une campagne plus large de l'AC de sortir le privé des institutions publiques. Donc, c'est ça. Mais après deux semaines, en fait, le contrat avec la firme La Liberté a été résilié. Puis, c'est ça. On a réussi à foutre le privé dehors. Le processus de boycott, comment ça s'est passé? En gros, c'est qu'il y avait distribution de bouffe gratuite. C'était moyennant une contribution volontaire qui était distribuée directement à la cafétéria. C'est ça. La cafétéria, en fait, ne faisait presque plus de revenus à partir de ce moment-là. Puis ça a été l'action directe qui a permis de foutre le privé dehors.
C'est reculé que d'être stationnaire, on le devient, notre philosophie.
C'est clair que c'est dans le pavillon, disons, des sciences humaines où ça a été le plus intense. Puis c'est aussi dans le pavillon de sciences humaines où le café autogéré a le mieux fonctionné et fonctionne toujours. Donc, l'occupation illégale, ça fait toujours depuis... Ça fait déjà
encore?
Deux mois et demi.
Ah ouais? Ouais. Génial. Puis l'initiative venait des étudiants en tant que tels, d'une association étudiante en particulier ou du concours
en fait,
de...
au départ, c'était vraiment des étudiants et étudiantes qui ont décidé de lancer un petit comité qui avait pour but le rachat des cafés-bars.
Okay.
Ça a été récupéré par, au départ, deux associations étudiantes, puis ça s'est élargi à quatre associations étudiantes de différents modules des sciences humaines qui ont lancé la... En fait, c'est vraiment à partir d'eux qu'ils ont lancé une campagne, disons, cohérente de boycott, puis d'organisation de lutte, puis des actions directes comme telles. Ouais, fait que moi, ça a quand même été beaucoup porté par les associations étudiantes, mais il y a eu un bassin de militants et militantes quand même assez élargi. Dans l'implication directe, c'est alentour de 40 ou 60 personnes.
Okay. Puis tu m'as dit que vous aviez eu un support de l'AC également?
Clairement, au niveau des communications, au niveau du matériel de mob, etc., parce que justement, ça concordait beaucoup avec la campagne cette année. Il y a l'Association des sciences sociales à l'UQO qui est membre de l'AC.
Oui, puis pour ce qui est de la participation, j'ai lu qu'il y avait quand même une très bonne participation. Les gens étaient assez willing jusqu'à participer aux bouffes plutôt que d'aller tout simplement à la cafétéria. Ouais. Puis même de professeur, peux-tu me décrire un peu l'ambiance qu'il y avait dans les cafés autogérés?
C'est ça, la participation, en fait, de l'ordre de tout le monde qui ont participé, même de manière indirecte, ça pourrait ressembler à peut-être 700 personnes en tout, qui ont participé directement au boycott, puis qui donnaient des contributions volontaires, puis qui n'achetaient plus à la cafétéria, etc. Ça a été vraiment de tous les secteurs, disons, de la communauté universitaire, professeurs, chargés de cours, employés de soutien beaucoup aussi, puis ils sont tous devenus membres de la coop aussi par la suite avec l'aide d'appui, etc., pour que la coop autogérée se formalise.
It was a normal day at the store. Customers coming in, chicken going out.
La direction finit par résilier le contrat de La Liberté en bout de ligne. Ce qui a laissé un peu le champ ouvert à une coopérative étudiante qui est, je l'imagine, en train de se mettre sur pied.
En fait, elle est déjà sur pied.
Okay.
Puis, on ne sait pas combien de temps encore ça va durer dans le mode sur lequel elle fonctionne en ce moment, mais c'est pas mal intéressant comment elle fonctionne. En gros, il y a, disons, un comité de... Ben là, c'est clair que ça fonctionne par AG pour le décisionnel, pour les orientations, etc. Il y a un comité de coordination à l'interne qui sert à s'assurer au ravitaillement de bouffe puis à, puis, mettons, gérer un petit peu les horaires de volontariat.
Mmh.
Mais par contre, c'est ça, il n'y a aucune gérance à l'interne. Puis, en fait, presque tout le monde qui est utilisateur, utilisatrice du café-bar comme tel est également formé à comment faire le café, etc. Puis s'occuper de la bouffe, s'occuper du café. Ouais, donc, le café fonctionne par lui-même, par les utilisateurs et utilisatrices qui sont là. En fait, c'est quand même spécial.
Donc, ça serait pas nécessairement comme les coop classiques qu'on connaît où, admettons, les coop de travailleurs, où c'est les travailleurs qui vont pouvoir y avoir un impact, mais aussi les consommateurs.
Oui, exact. Ben, en fait, ça a été le mode, ben, disons, elle a été formalisée stratégiquement parce qu'on essayait de justement, on savait qu'on prendrait pas le contrôle sur l'université en général et, ou sur la société en général sur une base d'autogestion, disons, cet automne ou cet hiver.
Non,
donc,
oui.
L'idée a été de justement formaliser la coop pour qu'elle puisse être reconnue à l'interne. Comme tel, c'est ça, c'est sur le mode de coop de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a des membres utilisateurs, membres travailleurs, par contre, il n'y a pas d'employés pour l'instant, puis membres soutien aussi.
C'est pas l'uniforme qui fait le gendarme, c'est la moustache, c'est la moustache.
Puis au niveau de la répression que vous avez subie, est-ce que tu peux me faire un suivi?
Oui, ben en gros, ben c'est ça, c'est à la mi-octobre, je pense, une dizaine d'étudiants et étudiantes qui avaient reçu au départ des lettres, disons, qui disaient « Vous êtes accusé de telle offense. » En gros, il était question d'indécence, d'intimidation, d'avoir... ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. D'avoir bloqué, d'avoir entravé la circulation dans l'institution, puis... d'avoir nui à la prestation d'un service, des services alimentaires à l'université. De tous ces gens-là, c'est seulement sept personnes qui ont été convoquées devant le comité de discipline à l'université. Puis, c'est ça, six qui ont eu des sanctions. Une personne a été suspendue, cinq autres ont eu des notes à leur dossier permanent. D'étudiants et d'étudiantes. Depuis ce temps-là, ben là, c'est clair qu'il y a eu une mobilisation autour de ça pour dénoncer la répression à l'interne. Puis en fait, ben, c'était inscrit aussi là, parce que c'était à travers la CIS, c'était pour dénoncer les dérives fascisantes des institutions d'enseignement postsecondaire au Québec. Puis c'est ça, on a eu une journée de grève qui réclamait le retrait des sanctions. Là-dessus, ça a ouvert la porte à ce qu'on puisse aller rencontrer le CA de l'université pour leur exiger, disons, le retrait des sanctions comme tel. Il y a eu aussi des procédures judiciaires qui ont été entreprises. Par contre, ça n'a pas encore abouti à ce niveau-là, mais ça devrait continuer possiblement cet hiver. On est en dilemme sur la stratégie. On s'attend pas toujours à grand chose du système judiciaire pour se faire justifier pour ça.
L'université, en même temps, penche un petit peu, si on veut, de votre côté, pour ce qui est de vous donner le contrôle à quelque part, donner le contrôle aux étudiants des services alimentaires, notamment en résiliant le contrat, mais en même temps, elle se veut répressive, sûrement en vous surveillant, en vous entravant, puis là, en vous convoquant devant un comité de discipline.
Oui, ben en fait, il semble qu'elle a utilisé la situation, disons, la direction de l'université a utilisé un peu la situation pour régler des comptes avec certains militants, certaines militantes, disons, de plus longue date au sein de l'université. C'était quand même des personnes très ciblées qui ont été convoquées devant le comité de discipline, alors que c'était pas nécessairement des personnes qui avaient, commis des actions différentes des 40 autres personnes.
You always hurt the one you love.
En tout cas, c'est un peu ridicule de voir que l'université en profite dans le fond d'un contexte assez effervescent pour régler ses comptes. Là, c'est ouais. assez ridicule.
Ben, juste pour préciser, en gros, l'université n'est pas nécessairement favorable à ce que la coop, okay. La coop autogérée gère les cafés-bars. En fait, il y a eu appel d'offres. Nous, ben, genre, on répondait absolument pas aux critères, mais on a quand même soumis un appel, on a quand même fait une soumission. Mm. Parce que, ben, c'était ça, c'était pour rentrer dans le système comme tel. Ben, finalement, des trois appels d'offres qu'ils ont reçus, il y en avait pas une qui correspondait aux critères. Okay. Donc, c'est la direction, en fait. Elle a fini par décider, parce qu'elle ne pouvait plus l'octroyer à une firme privée. Je pense que c'est, en tout cas, c'est une règle de base de la gouvernance des universités. Mais... Donc, elle l'a donné à CoopSco, qui était l'ancienne coop universitaire. Donc, en ce moment, on en est à négocier avec CoopSco, qui a reçu, en fait, qui s'est vu octroyer le contrat. On est en train de négocier avec CoopSco. Ben, en fait, négocier. On exige d'eux parce qu'on leur dit que dans la situation actuelle, de toute manière, le café-bar, c'est à nous. Puis oui. socialement, à l'intérieur de l'université, c'est à tout le monde. Puis les gens se l'ont beaucoup approprié. Puis qu'ils arrivent dans le contexte en disant, ah, ben, c'est nous qui gérons le café-bar mm-hmm. maintenant, mais il n'est pas question de ça.
Puis ça vous fait un bon bassin, si on veut, de nouveaux nouvelles militants, militantes, à partir de là, d'autant plus que c'est souvent dans ces situations-là qu'on se radicalise.
Oui, bien clairement, oui. Clairement, ouais. Mais ça a été ça aussi le but de l'éducation populaire comme tel, c'était un peu la radicalisation des gens qui avaient un peu déjà des idées sur ce que, selon eux, ça devait être, etc., puis de leur donner des moyens, justement, des moyens d'action direct pour pouvoir y arriver, puis aussi essayer de stimuler un peu une réflexion plus large, ben pas juste sur l'autogestion, mais tu sais, avec l'exemple de la répression, mais on a pu parler de répression institutionnelle, etc. Mm. On est allé plus loin. Il y a des gens qui ont fait des projets d'art qui ont en fait incarné la répression par un Léviathan fait avec les mises en demeure. Vous allez voir la photo, il est là sur le blog de la coop comme tel. Donc, ouais, c'est ça, il y a eu quand même d'éducation sur la répression institutionnelle, que ce soit étatique ou universitaire. Puis, ouais, on a quand même fait pas mal de pouces sur tous les exemples concrets qu'on a pu avoir pour faire, disons, de la sensibilisation, de la conscientisation d'un certain nombre de réalités.
Donc, l'autogestion, ça plaît aux gens?
Oui, oui. Ben, ça plaît aux gens, puis c'est ça. C'est en fait, ils peuvent tellement en faire ce qu'ils en veulent.
Ouais. Mais jusqu'ici, les bars appartiennent aux étudiants et étudiantes.
Oui.
Puis bientôt, ce sera l'université et ensuite le monde.
Exactement.
Parfait. Donc, je ne sais pas si on a fait, je crois qu'on a réussi à faire le tour de la question.
Ouais,
Toi, si tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs, auditrices et à tous ceux et celles qui rêvent d'autogestion la nuit, tu peux y aller d'un élan.
Ben, en fait, je suggérerais juste aux gens qui ont envie ou qui voient des problèmes, justement, ou qui veulent joindre la lutte contre le privé dans les institutions publiques ou contre le privé, point, ben, que l'autogestion, lorsqu'il y a un intérêt certain populaire et général pour un service en particulier, ben de se lancer dans l'aventure, la folle aventure de l'autogestion et que ça peut rapporter beaucoup plus en fait que la simple appropriation populaire d'un service en fait au niveau éducation et conscientisation de la dynamique plus large et de la répression sociale, etc. Ça apporte énormément pour les luttes sociales à venir. Donc ben, je vous invite à le faire, puis si vous avez besoin d'un coup de main aussi, il y a pas mal de monde à l'UQO qui maintenant le font depuis plusieurs mois, et ça ferait certainement plaisir de donner un coup de main.
Parfait, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc, voilà. Nous, ici à la Rage du Peuple, on te remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Pour ce qui est de l'entrevue, on va sûrement pouvoir l'isoler et la mettre sur notre blog à l'adresse suivante, au cacs.propagande.org. Qui est le blog du collectif du 19 juillet.
Ben, merci beaucoup.